come back again.
Those days never go. Never grow.
Thank you, Van Morrison.
Sacrifice. The crude delight. My compassionate sacrifice.
t'attache à ton lit. Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Les couloirs trop blancs. Vois tomber du chameau. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse paraisse se passe. La solution à cœur, c'est ça la médecine. Je veux la guillotine. C'est ça la médecine. Je veux la guillotine. C'est ça la médecine. Je veux la guillotine. C'est ça la médecine.
L'entonnoir sur Radio Libertaire, la Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme tous les mercredis, de 9h30 à 10h30. Et aujourd'hui, nous recevons, nous avons le plaisir de recevoir le CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Le CRPA, la seule association à notre connaissance qui soit vraiment militante dans le domaine de la défense des usagers, usagères de la psychiatrie. Alors je mets ce terme usager entre guillemets parce que le terme usage ne devrait correspondre qu'à des situations consenties. Or, il s'avère, on en parlera peut-être plus tard dans cette émission, que même des personnes qui se présentent en hospitalisation libre se trouvent contraintes assez rapidement à des traitements qu'elles n'ont pas choisis. Le CRPA, donc, association dans laquelle vous dénoncez les abus de la psychiatrie, et l'on sait combien ceux-ci sont nombreux, et combien aussi on a du mal à les faire connaître. Il a fallu, par exemple, qu'une plainte fût émise par une proche de psychiatrisée et que la CGL, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, soit sollicitée pour que l'on découvre les traitements infligés aux hospitalisés du centre psychothérapique de l'Ain et pour que l'on se rende compte, après publication de rapports et d'une alerte lancée par le collectif des 39, que les pratiques de contention et d'isolement étaient légion dans notre pays. Association militante, donc, voilà, et qui utilise l'appareil juridique, l'outil juridique, puisque la loi se doit de veiller à ce que soient, théoriquement, respectés les droits fondamentaux. Bonjour André, bonjour Yaël.
Bonjour.
Bonjour.
André Bitton, président de l'association, Yaël Friedman, secrétaire. Alors aujourd'hui, on vient parler principalement d'une nouvelle que je vais vous lire venant de APM News. Psychiatrie, une mission à l'Assemblée nationale pour évaluer la loi de 2013 sur les soins sans consentement. Donc un article du 6 janvier. Une mission a été lancée début janvier à l'Assemblée nationale pour évaluer la loi du 27 septembre 2013 sur les soins sans consentement, a-t-on appris vendredi de sources concordantes. 6 mois après son entrée en vigueur, toute loi peut faire l'objet d'une évaluation par la commission compétente, a précisé une source parlementaire à l'APM. APM, Agence Presse Médicale. 2 députés ont été désignés pour mener cette mission. Il s'agit du député socialiste Denis Robiliard, Loir-et-Cher, auteur de la loi de septembre 2013 et du rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie, rendu public fin 2013, et du député LR, Denis Jacquat, député de Moselle. Les auditions se dérouleront tout le mois de janvier pour une présentation du rapport mi-février. Le rapport sera examiné par la commission des affaires sociales, puis rendu public. En revanche, les travaux de la mission, audition et déplacement ne seront pas du tout ouverts ni au public ni à la presse, et les auditions ne seront pas retransmises. Les premières auditions ont lieu mercredi et ont permis d'entendre mercredi
le 4.
Le 4. Et ont permis d'entendre les associations de patients avec d'abord le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, CRPA, puis l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques, UNAFAM, la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie, FNAPSI, et Advocacy. Magali Coldéfi, de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, IRDES, a également été entendue. Les prochaines auditions, les auditions suivantes, ont lieu avec des représentants des avocats, puis avec la magistrate Marion Primevert, co-directrice de la formation annuelle nationale « Les soins psychiatriques sans consentement » de l'École nationale de la magistrature. Devrait ensuite être entendu Jean-Luc Roland, directeur du Centre collaborateur français de l'Organisation mondiale de la santé, CCOMS, pour la recherche et la formation en santé mentale, l'Inspection générale des affaires sociales, IGAS, les syndicats de psychiatrie, la Haute Autorité de Santé, les magistrats et les greffiers, l'Association du corps préfectoral, la Conférence nationale des présidents de tribunaux de grande instance, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan. Une table ronde avec les directeurs d'établissement sera également organisée.
Oui, voilà. Alors, encore faudrait-il préciser peut-être pour vos auditrices et auditeurs que la loi du 27 septembre 2013 a été une loi sur initiative parlementaire, hein, sur une proposition de loi prise sur la base d'une question prioritaire de constitutionnalité du 20 avril 2012, une décision du Conseil constitutionnel sur une saisine de notre association, le CRPA, qui avait réclamé la censure d'un certain nombre de dispositions de la loi du 5 juillet 2011, qui d'un côté, la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques, qui d'un côté avait judiciarisé le maintien de quinzaine des hospitalisations sans consentement, mais de l'autre était une loi sécuritaire qui avait instauré des dispositions dérogatoires sur le changement de régime ou la sortie des patients internés sur le mode médico-légal, déclarés pénalement irresponsables ou internés en UMD. Et cette loi avait également introduit la notion d'un antécédent de 10 ans avant l'hospitalisation en question sur une recherche d'antécédents psychiatriques de faits médico-légaux. Autrement dit, il y avait-il eu 10 ans, jusque 10 ans auparavant, une déclaration d'irresponsabilité? La personne avait-elle été déclarée pénalement irresponsable ou avait-elle été déjà internée en unité pour maladie difficile? Et s'il y avait de tels antécédents ou si la personne était du registre médico-légal, alors s'appliquait un régime dérogatoire terriblement dur pour la sortie ou pour l'amélioration du régime. Donc en fait, la loi du 5 juillet 2011, par ce régime dérogatoire et par la recherche d'antécédents psychiatriques médico-légaux, avait mis en place de véritables perpétuités psychiatriques. Et par ailleurs, la loi du 5 juillet 2011 avait légalisé les programmes de soins, c'est-à-dire la contrainte aux soins en ambulatoire, la contrainte au traitement en ambulatoire. Alors nous, notre association avait attaqué devant le Conseil d'État les décrets d'application de cette loi, les décrets du 18 juillet 2011, et profitant de nos procédures devant le Conseil d'État contre les décrets d'application, on avait déposé des questions de prioritaires de constitutionnalité en demandant au Conseil d'État de les renvoyer au Conseil constitutionnel. Ce que le Conseil d'État avait accepté de faire par arrêt du 8 février 2012. Le Conseil constitutionnel avait rendu sa décision le 20 avril 2012 en censurant les principaux articles concernant le régime dérogatoire sur les patients médico-légaux, les pénaux irresponsables et les internés en UMD. Bien. Et donc, en mettant une date ultérieure pour l'abrogation des articles en question, qui était au 1er octobre 2013. Donc, le gouvernement et le Parlement, issus de l'alternance de 2012, puisque le 20 avril 2012, c'était la veille du premier tour des élections présidentielles de 2012, qui allait amener François Hollande au pouvoir, et une majorité socialiste à l'Assemblée nationale, le Parlement et le gouvernement avaient donc jusqu'au 1er octobre 2013... soit, enfin, pour réformer, pour partie à tout le moins, la loi du 5 juillet 2011. Finalement, le gouvernement a décidé, ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale, de mandater un député socialiste dans ses rangs, issu du milieu associatif, Denis Robiliard, qui est un ancien président d'Amnesty International France, et dont la principale attachée parlementaire est une militante très ancienne du GISTI, du groupe d'information des immigrés, du groupe d'information et de soutien des immigrés. Et donc, une mission d'information sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie a été ouverte, principalement dirigée par le député Denis Robiliard, qui a auditionné, en audition publique d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, la plupart des acteurs du terrain psychiatrique. Dans un premier temps, dans le but de mettre sur pied une proposition de loi qui allait devenir la loi du 27 septembre 2013, réformant partiellement la loi du 5 juillet 2011, et dans un deuxième temps sur le champ santé mentale en général, pour remettre un rapport avec des préconisations. Alors c'est dans cette optique qu'au mois de mai 2013 a été déposé un premier rapport donnant les grandes lignes d'une réforme partielle de la loi du 5 juillet 2011, qui a été discutée l'été 2013 au Parlement, en procédure accélérée, c'est-à-dire avec une seule lecture dans les deux chambres, qui a donné la loi du 27 septembre 2013, qui abroge une partie du dispositif dérogatoire sur les patients médico-légaux et simplifie la procédure la procédure d'envoi devant le juge des libertés de la détention, où auparavant il y avait un grand nombre de certificats et avis médicaux, il y a une réduction de cela. Le contrôle judiciaire passe de 15 jours à 12 jours, et bon, quelques autres points réformés. Pour la mission en question, il s'agit d'évaluer si la loi du 27 septembre 2013 a été opérationnelle ou pas, et s'il reste des questions pendantes ou pas. Alors nous, on a été auditionnés le 4 janvier dernier, en tête des associations d'usagers, pour une raison simple, c'est qu'on avait été l'association principale actrice du processus de déclenchement de la réforme du 27 septembre 2013. Et donc, on a été auditionnés en tant que tel. Alors, nous avons déposé des textes en quantité assez conséquente. On était trois à représenter le CRPA. Il y avait d'une part, j'ai déposé un texte général, Yael Friedman, secrétaire de l'association ici présente, et Madame Pauline Renter, qui est une sociologue, chercheur, qui était sociologue-chercheur à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et qui est une femme qui a travaillé en tant que chercheur sur plusieurs thèmes de recherche, notamment sur les conseils locaux de santé mentale avec le Centre collaborateur Organisation mondiale de la santé EPSM de Lille, avec auprès du docteur Jean-Luc Rolland, sur le programme Un chez soi d'abord avec le docteur Vincent Girard à Marseille. Autrement dit, le relogement dans une logique de rétablissement de personnes sans abri, très atteintes au plan psychiatrique. Bien. Ils ont d'ailleurs fait quelques réussites tout à fait spectaculaires. Et le programme Un chez soi d'abord, qui est expérimental dans un premier temps, a été étendu au plan national par un récent décret. Et puis, en ayant assez que ces recherches et que, en tant que chercheur sociologue, ces recherches aboutissent finalement à des rapports faisant des constats accablants, et ces constats accablants ne trouvant pas de traduction concrète, Madame Pauline Renter a décidé de démissionner de ses fonctions pour devenir avocate et pour se spécialiser sur Marseille, sur l'accès aux droits des personnes psychiatrisées. Or, ça tombe bien, c'est une excellente initiative, puisque sur Marseille, il n'y a pas de réseau d'avocats coordonnés, dynamiques et compétents qui tombent d'accord pour organiser la défense des personnes internées en milieu psychiatrique. Et Mme Renter a monté un réseau d'accès au droit à Marseille qui s'appelle le PADUP, Association pour l'accès au droit des usagers de la psychiatrie, de façon pluriprofessionnelle, en impliquant des personnes psychiatrisées elles-mêmes, également des médecins, psychiatres, des travailleurs sociaux, de sorte à mettre sur pied à Marseille un tissu associatif qui permette de faciliter pour les personnes psychiatrisées sur le ressort de Marseille l'accès au droit. qui est une très bonne initiative. Donc, nous avons accueilli... Alors, Mme Pauline Renter a déposé un texte analytique que Yael Friedman, dont Yael Friedman va nous donner la teneur, et a déposé avec son texte analytique très critique, c'est-à-dire en insistant sur les très vives difficultés pour les personnes psychiatrisées pour accéder aux droits, à leurs droits, et pour accéder ne serait-ce qu'au fait de connaître ses droits.
Avec des témoignages à l'appui.
Comment ?
Avec des témoignages à l'appui.
Avec des témoignages à l'appui. Et certains de ces témoignages sont absolument, mais accablants, accablants. Le deuxième témoignage, notamment sur la lente agonie d'une patiente morte à 43-44 ans, Madame Nathalie Dahl, sur le ressort de Montperrin, est absolument, pratiquement terrifiant. On trouve ces témoignages sur notre site internet. Donc, pour ma part, mon intervention a consisté, je reprends sur mon intervention en tant qu'intervention générale, a consisté à faire un point général sur la loi du 27 septembre 2013 et ce qu'elle a apporté et ce sur quoi il y a des points qui visiblement ne marchent pas. Mais ça, c'est pas propre à la loi du 27 septembre 2013. Il y a des dysfonctionnements sur le processus de judiciarisation des hospitalisations sans consentement. Depuis la loi du 5 juillet 2011, puisque dès la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 au 1er août 2011, il était clair qu'une partie des professions judiciaires, des établissements hospitaliers et des directions d'hôpitaux boycottaient le processus de judiciarisation. Dès l'été et l'automne 2011, on a vu que des hôpitaux refusaient d'envoyer les patients en audience. Ça a été le cas de l'hôpital Paul Guirovitch juif, qui a boycotté les audiences. Ça a été le cas de Villévrard, en banlieue parisienne, qui a pris une décision de commission médicale d'établissement pour boycotter les envois des patients internés aux audiences de contrôle. Sur le ressort de la juridiction de Bobigny, du fait de Villévrard et du refus des psychiatres de Villévrard d'envoyer leurs patients en audience, jusqu'à ce jour, même s'il y a une salle d'audience spécialement dédiée dans Villévrard, jusqu'à ce jour, les audiences de contrôle se passent dans un face-à-face, sans la présence de l'interné, entre le juge des libertés de la détention et l'avocat qui est commis d'office, qui discute pièce en main du dossier, hors présence de l'intéressé. Mais encore faut-il qu'il y ait une contre-indication médicalement fondée au fait que la personne ne comparaisse pas. Par ailleurs, la majorité des juges, des magistrats, étaient hostiles à la judiciarisation. Seul, en 2011, le syndicat de la magistrature, qui emportait aux élections professionnelles 32% du corps électoral des magistrats, aux élections professionnelles des magistrats, seul le syndicat de la magistrature s'était positionné en faveur de la judiciarisation. Au surplus, les avocats n'étaient pas favorables à la judiciarisation, puisque celle-ci, quand elle a été introduite au 1er août 2011, le forfait octroyé au titre de l'aide juridictionnelle pour des avocats commis d'office, non choisis, assistant les personnes internées au contrôle de 15 jours, devenu contrôle de 12 jours dans la loi du 27 septembre 2013, était seulement de 4 unités de valeur, soit 90 euros, soit une paierie dérisoire, puisque cela poussait les avocats à faire de la pure et simple assistance. Autrement dit, ils sont là commis d'office, ils disent « oui, oh, ben, mon client, patati patata, puis je m'en remets à votre décision, je m'en remets à la sagesse du tribunal, et puis point, la personne n'est pas défendue ». Alors, pour la minorité d'avocats, puisque dès l'été 2011, des avocats se sont formés, des cycles de formation ont été mis en place par des avocats militants qu'on connaissait, vous voyez, il y avait, c'est déployé depuis 2011, plusieurs centaines d'avocats essayant de faire concrètement leur défense, de leur travail de défenseur des internés. Donc pour ces avocats-là, hériter d'un dossier de contrôle judiciaire d'hospitalisation sans consentement, de préférence la veille de l'audience, c'est plusieurs heures de travail. Donc 90 euros pour plusieurs heures de travail, c'est vraiment... bon, voilà. Et donc, une bonne partie des avocats étaient hostiles à cela, notamment parce que les permanences étaient mal payées, et sont mal payées. Alors là, à l'heure actuelle, il y a une revalorisation du tarif de ces contrôles qui sont passés de 4 unités de valeur à 6 unités de valeur, ce qui fait à peu près 130 euros. Mais cela n'en reste pas moins. Si vous voulez, le déplacement, par exemple, des avocats dans les salles des audiences, dans les salles d'audience mutualisées des établissements, entre leur cabinet près de leur juridiction et les salles d'audience, les hôpitaux eux-mêmes, ça n'est pas défrayé. Donc, si vous voulez, il y a eu des barrages de tous les côtés pour, en quelque sorte, ne pas obtempérer à la nouvelle législation sur la judiciarisation en faveur des droits des internés. Donc, compte tenu de cela, si la loi du 27 septembre 2013 qui a instauré une représentation obligatoire des personnes internées qui comparaissent en audience par avocat, cette assistance obligatoire par avocat est une très bonne chose parce qu'elle a responsabilisé les avocats, elle a responsabilisé les barreaux. Il n'en reste pas moins que l'effectivité de la défense pour les personnes internées, ça reste très problématique.
On ne peut pas dire que les personnes sous mesure de soins psychiatriques sans consentement peuvent aisément accéder à leurs droits.
Ne peuvent certainement pas.
Ne
peuvent certainement pas accéder aisément à leurs droits. Certainement pas. D'autant plus que, si vous voulez, l'organisation des audiences, l'organisation de la désignation de l'avocat obligatoirement commis pour, ou choisi d'ailleurs, pour assister la personne, peut se faire le jour même à 1-2 heures de distance de l'audience, si bien que l'avocat n'a pas le temps de préparer son dossier, et que le peu de paye au niveau des unités de valeur pour les avocats commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle pousse les avocats à faire de la simple assistance sans travailler les dossiers. Or, on sait que les magistrats, les juges des libertés de la détention sont très très frileux à donner des mains levées et se contentent de valider les certificats médicaux des psychiatres des hôpitaux qui concluent au maintien. Et que donc, il ne reste, pour faire marcher la défense juridique des internés, il ne reste guère que le billet des illégalités de droit formelles, des illégalités de procédure, des nullités qui doivent être soulevées, travaillées, jurisprudence en main. Ce qui veut dire que l'avocat qui fait son travail doit s'efforcer de chercher dans la procédure des nullités de droit, les soulever, les argumenter, jurisprudence en main, pour qu'éventuellement il puisse, le magistrat, en droit pur, puisse donner une main levée. Or cela, ça suppose que l'avocat, au moins la veille, sur une trame informatique qu'il a sur son ordinateur, et au vu des pièces du dossier qui se fait communiquer, produisent des conclusions basées sur les nullités du dossier, basées sur les inégalités du dossier. Ça veut dire de travailler plusieurs heures sur un dossier pour un forfait dérisoire. Mmh. Alors les avocats engagés avec lesquels nous travaillons, qui sont quand même en réseau plusieurs centaines à travers la France, c'est ce qu'ils font. Ils ont sur leur informatique une trame avec les principaux moyens qu'ils peuvent soulever. Et au vu des pièces du dossier qui sont communiquées par le greffe du JLD, ils sélectionnent les moyens et ils sortent des conclusions qu'ils déposent avec des jurisprudences à l'appui. Mais simplement, c'est 2 heures, 3 heures de travail pour un dossier. Et bon, voilà, c'est assez compliqué. Quant aux personnes elles-mêmes, ce dont on se rend compte, c'est que pourquoi voulez-vous qu'une équipe de soins psychiatriques informe valablement avec une notification qui est remise à la personne et avec une explication sur cette notification, pourquoi voulez-vous que cette équipe de soins qui est censée faire le bien de la personne, alors que la personne n'est pas en état de comprendre qu'elle nécessite des soins, pourquoi voulez-vous que cette équipe se fatigue à donner communication avec une due explication à la personne qu'elle tient sous ses soins de ses droits et voies de recours, alors que précisément par l'exercice de ses droits et voies de recours, la personne pourrait échapper au bien qu'on lui veut. Alors donc, si bien que dans la réalité pratique, dans les établissements psychiatriques, les personnes ne sont que très marginalement informées sur leurs droits et voies de recours, pratiquement pas sur l'audience du juge des libertés de la détention. Quand on dit aux personnes internées qu'elles vont passer devant le juge, on leur laisse entendre que c'est un juge pénal. On ne leur explique pas que c'est un juge civil qui a été instauré en faveur des droits des internés. On leur laisse entendre que c'est elles, en tant que personnes, qui vont être jugées.
Oui, si je suis jugé, c'est que je suis criminel.
En quelque sorte, on laisse entendre, en n'expliquant pas que la procédure de contrôle des hospitalisations sans consentement devant le juge des libertés de la détention, ce magistrat n'a pas sa casquette pénale qu'il a dans la sortie de garde à vue, les libérations conditionnelles, etc. Il a une casquette civile, puisque la procédure de contrôle des hospitalisations sans consentement est régie expressément par le code de procédure civile. C'est la mesure qui est statuée, et pas la personne qui est jugée, et on examine si la mesure est fondée au moment de l'audience, et si la procédure est légale et régulière. Donc il y a un double contrôle, un contrôle de bien fondé de la mesure pour éviter les internements arbitraires, et un contrôle de légalité de la mesure. Est-ce que la mesure a été légalement prise? Est-ce qu'elle se poursuit de façon légale? Bien. Alors là-dessus, ce que font la plupart des juges des JLD, si bien qu'il y a un taux de maintien absolument épouvantable, c'est 90% des mesures sont maintenues, quelque chose comme ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se contentent de lire les certificats médicaux. Le psychiatre de l'établissement fournit, bon voilà, il dit que la personne est parfaitement, hors d'état de consentir aux soins, que sa maladie, ceci, cela, et que donc le maintien est nécessaire. Je valide. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous n'avez rien à dire, je valide. Les avocats commis d'office se contentent en général de dire « Oui, mais non, mon client va bien, non mais il accepte les soins, non mais pas du tout », sans argumenter en droit. Eh bien, puisqu'on n'argumente pas en droit, le juge se contente de valider les certificats médicaux.
Alors, un peu pour revenir sur les différents points de cette modification de la loi, l'introduction de la représentation obligatoire par avocat lors des contrôles judiciaires des mesures d'hospitalisation sans consentement, vous la considérez évidemment comme une bonne chose, une bonne mesure?
Oui, absolument, parce que avec la loi du 5 juillet 2011, alors que la représentation pour les personnes dont la mesure d'internement a été contrôlée à titre obligatoire, au délai de quinzaine, avant le 15e jour, par le juge des libertés et de la détention, l'assistance par avocat n'était pas obligatoire. Si bien qu'on voyait des hôpitaux qui venaient dire aux personnes, quelques jours avant l'audience, au 7e, 8e jour, est-ce que vous cochez la case, est-ce que vous voulez un avocat ou pas? Et attention, laissant entendre aux patients que si le patient choisissait un avocat, à la limite, ses conditions de séjour dans l'hôpital seraient durcies. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et que donc, si la personne se mettait à essayer d'organiser sa défense, nous, on a vu le cas sur l'hôpital d'Abbeville, dans le pavillon psychiatrique de l'hôpital d'Abbeville, une personne qui était internée dans un conflit conjugal et qu'on a soutenu, on l'a fait libérer. Hein. C'est moi qui ai fait les conclusions devant le juge des libertés qui ont été reprises par l'avocate qu'elle avait choisie, qui a fait un copier-coller et qui a été plaidée. Et la malvée a été accordée sur une des nullités que j'avais soulevée. Hein. Qui était issue de la jurisprudence. Et donc, immédiatement après le fait qu'elle ait commencé à préparer sa défense, son neuroleptique a été haussé de 50%. Le dosage a été haussé de moitié. C'est-à-dire que cette femme était KO, KO debout. Hein. Et une fois la malvée accordée, elle a été mise à la porte, purement et simplement de l'établissement, et priée de se rapatrier par chez elle par ses propres moyens.
Ça révèle bien la réticence des psychiatres.
Pas plus que ça.
Oui, enfin, c'est un euphémisme.
Réticence, c'est un euphémisme.
D'accord.
Je vous signale qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, d'abord le droit ne rentrait pas dans les hôpitaux psychiatriques, par haute tradition depuis le 19e siècle. Et une personne qui se mettait à réclamer ses droits était en phase quérulente paranoïaque processive et était bonne pour une répression psychiatrique accentuée.
Alors, il est encore aujourd'hui très difficile aux personnes hospitalisées d'accéder à l'information de leurs droits et à des voies possibles de recours. Le texte de Madame Pauline Renter.
Oui.
Est-ce que Yael Friedman, vous avez des choses à dire par rapport à cet accès au droit des personnes un peu limitées, qui rencontrent des obstacles?
Oui, bien sûr. Donc, et aussi rebondir sur plusieurs points de ce qu'a dit André Bitton.
Oui.
D'abord, pour donner une idée de l'enjeu, je souhaite rappeler quelques chiffres qui sont parlants. C'est qu'en France, chaque année, il y a près de 2 millions de personnes qui fréquentent la psychiatrie publique, que parmi elles, en 2015, plus de 79 000 personnes ont été prises en charge contre leur gré. À titre de comparaison, c'était un peu plus de 89 000 personnes en 2013 qui étaient placées sous écrou. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'avant la loi du 5 juillet 2011, qui a établi un contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention des hospitalisations sous contrainte, On peut dire que les personnes faisant l'objet de soins sans consentement étaient des personnes hors sujet du droit. L'enfermement psychiatrique n'était pas considéré comme une privation de liberté. Donc les modifications apportées le 27 septembre 2013 à la loi du 5 juillet 2011 ont notamment amélioré les conditions de contrôle par le JLD, qui sont passées de 15 jours d'hospitalisation à 12 jours, ce que vous disiez tout à l'heure, et en supprimant également aussi la visioconférence, qui était très problématique. Et donc ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que la loi du 5 juillet 2011 avait été très très mal accueillie. Elle oscillait effectivement entre le droit des usagers et une augmentation de la sécurité. Et c'est une loi qui avait été très mal préparée. Donc, elle a été refusée aussi bien par le système hospitalier que par le système juridique. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des JLD et des juges des libertés et de la détention et des avocats.
Oui, pour cause, la loi du 5 juillet 2011, le volet judiciaire de la loi du 5 juillet 2011 a été rendu obligatoire par des décisions QPC du Conseil constitutionnel, contraignant sur des actions venant de nous autres, hein, de nos rangs, hein, sur des procédures devant le Conseil constitutionnel, contraignant à une judiciarisation qui n'était pas prévue au programme. Donc cette loi avait été d'autant plus mal accueillie que le Conseil constitutionnel et les requérants, nous autres, et les avocats des requérants, avaient forcé la main à tout le monde.
Oui, elle a été imposée,
oui.
Et en étant très très mal préparée.
Oui.
Donc en fait, ce qui se passe dans la pratique, c'est que 5 ans après sa mise en application, la loi, elle connaît toujours des obstructions, et que, en fait, il y a un véritable hiatus entre la loi et puis la réalité des pratiques. Et donc, de la part des juges des libertés de la détention, de la part des avocats, qui refusent également, donc pour corroborer ce que vous disiez, enfin, y amener un argument de plus, qui refusent de devoir aller aussi à l'encontre d'un avis médical.
Oui.
Sauf les avocats qui sont motivés, et sauf les magistrats qui sont minoritaires, qui sont d'accord pour faire droit aux moyens soulevés. Hein. Sauf une minorité d'avocats, sauf une minorité de magistrats.
Oui, qui sont en minorité, minorité aujourd'hui.
Mais qui font la jurisprudence.
Effectivement, qui font avancer le terrain.
Oui.
Absolument.
Oui, ces certificats et avis médicaux semblent avoir une très grande valeur pour ces avocats.
Ah oui, les magistrats les valident. Vous avez beau avoir des psychiatres hospitaliers qui mettent des choses qui ne correspondent pas à l'état de la personne quand elle passe en audience. Par exemple, les certificats médicaux concluent à l'état de délire complet, à un état d'anosognosie, donc une incapacité à reconnaître ses troubles et à discuter valablement, un déni, etc. Alors que la personne passe à l'audience, elle est très bien. Voilà. Et le juge valide les certificats médicaux. Et en plus, le comble, c'est que l'on voit dans des audiences de contrôle sur Paris, par exemple, où les magistrats sont particulièrement répressifs, alors qu'un certain nombre d'avocats s'efforcent de faire correctement leur travail formé, notamment autour de Corinne Vaillant, de maître Corinne Vaillant du barreau de Paris, on voit des avocats qui s'efforcent de déposer des conclusions, soulever des nullités, qui se font engueuler par les magistrats, qui viennent leur dire « Mais qu'est-ce que vous soulevez des nullités? On n'est pas ici dans le contentieux des migrants irréguliers, on ne va pas libérer les malades mentaux ». Remballer vos nullités. On a même vu, parce que ça, j'en ai été témoin, enfin, en 2014, on avait sur Dijon un excellent avocat qui faisait un travail fantastique depuis plusieurs années, maître Franck Petit, hein, ça faisait plusieurs années qu'il faisait un très bon travail sur l'internement psychiatrique. Comme c'est un avocat très, très pointu, très précis, qui soulevait nullité sur nullité en argumentant en droit pur, il contraignait de facto les magistrats à faire droit à ses moyens, puisque sinon il se faisait fort d'envoyer l'affaire en cour d'appel et éventuellement d'engager des pourvois en cassation. À un moment donné, un magistrat de la cour d'appel de Dijon, cette formation avait été modifiée, en ayant assez d'être coincé juridiquement à faire droit aux moyens soulevés, avait saisi son bâtonnier, c'est-à-dire bon, le juge ordinal quoi, pour les avocats, en protestant contre le fait que cet avocat était tellement en fait pertinent, tellement consciencieux, faisait tellement son travail, que lui, magistrat, se trouvait dans l'obligation de faire droit aux moyens soulevés et de libérer des personnes profondément malades mentales qui, selon lui, en tant que magistrat, n'avaient pas à circuler librement. Bon, enfin, c'est un comble. C'est-à-dire, on voit des avocats qui s'efforcent de faire leur travail se faire remonter les bretelles par les magistrats.
Alors, l'introduction de la représentation obligatoire par avocat Mais la loi du 27 septembre 2013 n'a pas produit que des améliorations concernant le droit des hospitalisations sous contrainte. Ainsi, la simplification du nombre de certificats et avis médicaux produits entre la période d'observation de 72 heures et l'audience de contrôle par le JLD dans le délai de 12 jours est plutôt un recul.
Alors pour nous, oui, ça a été. Nous avons considéré que c'était un recul, puisque en fait, en droit, dans une procédure de privative de liberté, la complexité est favorable aux droits des personnes privées de liberté. Quand une procédure est complexe, quand elle suppose beaucoup d'actes, quand elle suppose beaucoup de documents, cela contraint les personnes en charge de l'autorité qui prive de liberté les intéressés de faire attention au formalisme. Le formalisme est garant des libertés individuelles en droit, hein, c'est ça qu'il D'accord. faut voir. Le formalisme, c'est très important. Or, en supprimant l'ancien certificat médical de 8N et en faisant que l'avis d'envoi au juge, qui était auparavant un avis conjoint, autrement dit deux psychiatres, délivrant un avis selon lequel la mesure était à maintenir et que la personne devait comparaître devant le juge des libertés de détention ou bien était médicalement déconseillée, peu importe, c'était un avis conjoint venant et d'un psychiatre suivant la personne et d'un psychiatre ne suivant pas la personne, donc avec un regard extérieur. Or, en simplifiant cet avis conjoint en un avis simple et en supprimant le certificat de 8N, la procédure, les documents obligatoires d'envoi au juge des libertés de la détention pour le contrôle de la mesure ont été réduits. Cette réduction du nombre de documents n'est pas favorable aux droits fondamentaux des personnes.
D'accord. Et même chose par rapport au certificat médical unique dans le cas des mesures d'urgence décidées
par les
directeurs.
Oui, mais ça, c'est pas propre à la loi du 27 septembre 2013. Non. C'est la loi du 27 juin 1980. Qui avait introduit la possibilité d'un certificat unique d'un certificateur venant de l'hôpital d'accueil, hein, dans le cadre de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en situation d'urgence, alors que la loi de 1838 prévoyait systématiquement un certificat médical extérieur. Enfin, encore que dans la loi du 30 juin 1838, on pouvait admettre de façon informelle une personne, quitte à régulariser dans les jours ou dans les heures qui venaient. Mais si vous voulez, nous, on considère qu'il est absolument grave pour les droits et libertés des personnes qu'on puisse interner une personne, la priver de liberté et la médiquer de gré sur la base d'un certificat médical unique, qui plus est, sans regard extérieur, puisque le certificateur peut être un psychiatre certificateur de l'établissement qui accueille. Ça nous Mais bon, c'est pas propre à la loi du 27 septembre 2013. Alors ce qu'on a remarqué, c'est que la loi du 5 juillet 2011, modifiée le 27 septembre 2013, qui a introduit les mesures de soins périliminants sans tiers. Quand on ne trouve pas de tiers, on s'en passe, bon, et on interne la personne en cas de péril imminent, avec un certificat médical unique venant d'un médecin de l'extérieur de l'hôpital. Ces mesures-là sont en inflation considérable, précisément parce qu'elles sont simples, et que cela permet de dégager la responsabilité des tiers, autrement dit des familles.
Alors, on est toujours sur Radio Libertaire, émission L'Entonnoir, et nous recevons le CRPA, dans le cadre de son audition en vue de l'évaluation de la loi du 27 septembre 2013. Dès la loi du 5 juillet 2011, les formes d'hospitalisation sous contrainte ne demandaient déjà qu'à se trouver, les entrées en hôpital à se trouver simplifiées. Est-ce que cela aurait un lien avec aujourd'hui une augmentation du nombre des mesures de SPI, soins pour péril imminent, ou de SDT d'urgence qu'on connaît ?
Écoutez, on est en attente des statistiques que l'équipe de Magali Koldofi, géographe statisticienne, doit fournir, qu'elle a vraisemblablement fourni à la mission d'évaluation de la loi du 27 septembre 2013 le 11 janvier dernier lorsqu'elle a été auditionnée par les députés Denis Robillard et Denis Jacquat. Aux dernières nouvelles, moi je l'avais vu à un congrès des directeurs d'hôpitaux le 25 novembre dernier. Les statistiques en question sur les hospitalisations sans consentement en 2014-2015, enfin les mesures de soins sans consentement en 2014-2015 étaient prêtes, mais elles n'avaient pas eu le feu vert de l'adresse, la direction des statistiques du ministère de la Santé. Et je suppose qu'on doit les avoir incessamment sous peu. Mais d'après un mot qu'elle m'avait glissé, il y a carrément une explosion des mesures de soins sans consentement. Ce que je pense, c'est que l'introduction du contrôle judiciaire obligatoire avec en parallèle la légalisation des programmes de soins.
Oui.
A fait que des mesures sont levées prématurément, des mesures de soins sans consentement sont levées de façon prématurée avant le contrôle judiciaire, si bien que les personnes, par les établissements, pour éviter le contrôle judiciaire, si bien que les personnes n'étant que simplement traitées, puis après on change de régime, on les passe sous programme de soins sans hospitalisation complète, vous voyez. Si bien que, si vous voulez, les personnes n'étant que traitées, voilà, leur situation n'est pas réellement abordée, on les externe, elles vont mal, on les réinterne, il y a un phénomène de turnover.
Une manière d'échapper au contrôle, en fait.
Oui, hein, voilà, pour contourner le contrôle, ça c'est très fréquent. Hein. Oui. Nous, on a vu notamment un établissement sur Paris, la SM13, la Société de Santé Mentale du 13e arrondissement, dans plusieurs dossiers qu'on connaît, admettre les gens en procédure de soins sur demande d'un tiers ou péréliminant, bon, voilà, selon une décision du directeur d'établissement. Quelques jours après, les places en programme de soins prétendus, il y a quelques heures de sortie par jour, pour éviter qu'ils soient en hospitalisation complète, si bien qu'il n'y a plus lieu à passage devant le juge des libertés et des détentions. Puis au bout d'un certain temps, on lève la mesure tout en disant à la personne, si vous n'êtes pas prendre votre traitement, on vous réinterne, si bien que la personne finit par arrêter ce traitement, on la reboucle, et ainsi de suite, plusieurs fois par an.
Quant à la SPI, c'est assez pratique, c'est-à-dire que ça simplifie beaucoup les choses, on n'a même plus besoin d'un tiers pour signer
hospitalisation. Mais qu'on a vu des responsables de l'UNAFAM, l'Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux, dont leur vice-président Michel Girard, dire que pour eux, le soin périliminant qu'ils avaient demandé, la légalisation des soins périliminants sans tiers, l'UNAFAM l'avait demandé, avec certains experts, notamment le professeur Cléry Melin, dans un rapport de 2003, au vu d'ailleurs d'une jurisprudence du Conseil d'État de 2003, qui avait censuré une hospitalisation à la demande d'un tiers dont le tiers demandeur était un administrateur de garde d'un hôpital, au motif que cet administrateur de garde ne connaissait pas préalablement la personne et n'avait pas compétence pour être tiers. Censure par la haute cour. Bon, et donc à partir de là, panique à bord, les directeurs des établissements, là où il y a des services d'urgence, ne peuvent pas être tiers demandeurs valables. Donc ils avaient tous préconisé les uns les autres, Cléry Melin, Covest, etc., l'UNAFAM, que l'on légalise les mesures de soins sur demande d'un tiers, sans tiers, donc en cas de périliminant. Et là-dessus, on s'aperçoit que les gens de l'UNAFAM, ça leur va terriblement, le périliminant, ça dégage la responsabilité du parent. Et donc, le parent peut dire, mais non, c'est pas moi qui ai demandé ton hospitalisation, etc., etc. Et donc, cela, en quelque sorte, atténue les conflits familiaux. Alors, figurez-vous que, donc, les mesures de soins, l'usage des mesures de soins périliminants est valorisé par l'UNAFAM.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même des chiffres de l'IRDES en 2012 et 2013, et on sait que donc, sur l'inflation des soins périliminants, qui sont passés de 8 500 donc personnes placées en soins sous périliminant en 2012 à 15 000 en 2013.
Oui, c'est ça, il y a eu une augmentation.
Ouais.
Tout à fait. Et en même temps, les statistiques de l'IRDES faisaient apparaître que le total mesure de soins sur demande d'un tiers et périliminant, le total qui antérieurement aurait été seulement un total de HDT avec différentes composantes, HDT simple ou HDT d'urgence, le total est nettement en hausse.
Oui. Bon, alors, quant à la judiciarisation des dérives maltraitantes dans les établissements psychiatriques, qu'en est-il? Le contrôle judiciaire de plein droit des mesures de soins se limite à statuer sur la seule régularité des mesures de soins sans consentement, non sur les problématiques de l'atteinte à la vie privée, des traitements, etc. Le JLD est-il compétent pour statuer sur... Alors, vous donnez cet exemple, André Bitton, de la requête qui proviendrait d'une personne en hospitalisation libre qui serait retenue contre son gré dans les murs avec une mise à l'isolement séquentiel de 3 à 4 heures par jour.
Mais bien sûr, c'est une vraie question. A priori, toute personne qui est hospitalisée sans son consentement, quel que soit son régime, peut demander, d'après l'article L3211-12 du Code de la Santé publique sur les saisines facultatives du juge des libertés et de la détention, que ce juge examine sa situation et libère. Donc une personne qui est librement hospitalisée statutairement et qui est retenu dans les murs, pourrait très bien saisir le juge des libertés et des détentions. Mais on a vu des cas, enfin moi j'ai vu en 2014 le cas d'une JLD de Grenoble qui était du genre, à, avec son greffe, avec sa greffière, à refuser l'enregistrement de requêtes de gens là, hein, à refuser purement et simplement. Alors comment fait la personne ? Alors nous, de toutes les façons, nous on a milité, on milite toujours pour la judiciarisation des mesures de soins sans consentement. Le fait est qu'il y a des pays occidentaux, dans lesquels, d'une part, il y a une décision d'un juge pour la privation de liberté, et d'autre part, il y a une décision d'un juge sur l'autorisation ou non de placer la personne sous soins sous contrainte. Donc il y a deux décisions judiciaires.
D'accord.
Alors en fait, c'est le modèle québécois. Alors est-ce que ce modèle serait favorable en France ? Je ne sais pas, mais enfin en tout cas, ce serait à voir que... une décision purement médicale, purement psychiatrique de soins sous contrainte soit examinée et validée par des magistrats et par des corporations judiciaires. À tout le moins, ça introduira un contrôle extérieur. Donc nous, on y serait favorable. D'ailleurs, j'estime qu'une jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles du 24 octobre 2016 qui libère, qui donne main levée d'une mesure de soins sur décision du représentant de l'État exécuté à l'unité pour maladies difficiles de Montfavet sur transfert de l'hôpital Erasme d'Antony et qui libère la personne parce que la mise à l'isolement en continu de la personne n'a pas été légale et régulière, c'est un début d'un contrôle judiciaire sur le contenu d'un internement.
Bah, là-dessus, je veux bien rebondir sur ce qu'a écrit Pauline Renter et ce qu'elle a dit lors de l'audition donc avec les députés Robillard et Jacquin, qui est lié à la réalité du fait de la possibilité de faire valoir ses droits quand on est au sein de la psychiatrie, du système psychiatrique, et aussi sur l'interrogation de la légitimité thérapeutique de la contrainte. Donc je voudrais vous lire un petit passage. L'introduction du juge des libertés et de la détention constitue indéniablement une amélioration dans le cadre d'une législation récente qui maintient malheureusement, comme les lois précédentes, des exceptions propres au système de soins psychiatriques. Cela étant posé, le système médico-légal applicable en psychiatrie, public ou assimilé, parce qu'il autorise toujours le corps médical et soignant à imposer ou fonder la décision administrative ou judiciaire, traitement médicamenteux, hospitalisation, contrainte, chambre d'isolement, mesures de protection, place toujours de nombreux patients dans une situation de dissymétrie qui les oblige à développer des stratégies pour éviter les contraintes. Et ça, c'est très important. À titre d'exemple, nous citerons le fait de prendre un traitement neuroleptique pour ne pas être mis en chambre d'isolement, de subir des injections tous les mois au centre médico-psychologique pour ne pas retourner à l'hôpital, de ne pas réclamer le respect de ses droits avec véhémence pour conserver sa liberté de circuler dans l'hôpital ou obtenir des sorties d'essai, de ne pas se rendre aux urgences en cas de crise pour ne pas être retenu contre son gré pour une durée inconnue a priori. Dans un tel contexte, faire valoir ses droits ou bien est bien considéré comme une stratégie perdante à court terme concernant les restrictions actuelles à la liberté d'aller et venir, de choisir son traitement, son médecin, d'exercer ses droits parentaux, etc. Effectivement, il n'est pas facile quand on est un patient de faire valoir ses droits.
C'est dangereux. C'est pas plus pas moins, c'est dangereux. On regarde une équipe qui considère que l'appel au droit est symptomatologique d'une recrudescence psychotique, c'est tout simplement dangereux. D'ailleurs, c'est ce que dit Pauline Renter Madame Renter de façon très fine dans son texte, je prends la suite. En l'absence d'alternatives massives à l'hospitalisation psychiatrique, la psychiatrie constitue pour de nombreuses personnes une ressource qu'elles ne veulent pas perdre. Hein ? C'est vrai, cela apporte à terme une pension d'invalidité, une possibilité de relogement, un entourage peut-être qu'on n'a plus. Porter plainte, c'est bien souvent risquer une rupture de lien avec une équipe médicale ou un service, quand c'est seulement un manquement ponctuel que l'on veut dénoncer. Et par ailleurs, les gens ne sont pas au courant de leurs possibilités de médiation, de recours. Personne, pratiquement personne chez les patients, ne sait ce que c'est qu'une CRUC, la commission des usagers. C'est-à-dire la commission de médiation interne. Personne n'est au courant que la commission départementale des soins psychiatriques peut être saisie. Évidemment, elle ne marche pas. Les CDSP ne marchent pas. Et très peu de personnes savent quelles sont les prérogatives du défenseur des droits ou du contrôleur général des lieux de privation de liberté. La seule solution qu'on a vue et que le législateur a vue, c'est compte tenu que la population psychiatrisée sous contrainte est une population de personnes vulnérables, c'est bel et bien d'instaurer un contrôle obligatoire pas facultatif, obligatoire, par un juge judiciaire, avec une assistance obligatoire par avocat, mais pourvu que les professions judiciaires fassent leur travail.
Alors, à ce que vous venez de dire, j'ajouterais que la psychiatrie est une source de revenus, non pas seulement pour les allocataires de la AAH, mais aussi pour les professionnels du soin.
Bien entendu, les professionnels des établissements psychiatriques se recrutent malheureusement, et c'est cela l'inflation du nombre des personnes psychiatrisées, des patients chroniques à vie, puisque l'on vient vous dire, heureusement il y a quelques planifications gouvernementales qui vont contre petit à petit ces temps-ci, parce que ça coûte trop cher pour les fonds publics, qui viennent vous dire psychose, pathologie incurable, traitement à vie. Bien. Donc suivi à vie, c'est absolument épouvantable, je dois dire. On vous interdit d'aller mieux. On vous interdit de tenter d'essayer de guérir. D'ailleurs, la guérison, ça n'existe pas en psychiatrie actuelle.
On commence à parler de rétablissement, quand même.
Oui, on veut bien parler rétablissement à l'heure actuelle, parce que ça permet d'envisager de dégager les effectifs, de dégonfler les effectifs.
D'accord. Pour finir, est-ce que vous avez quelques mots à dire sur tout ce qui s'est déroulé autour de la contention et de l'isolement?
Bien, nous avons déposé des observations, puisque nous avons été sollicités en tant qu'association expert extérieur au groupe de travail, d'ailleurs constitué à la Haute Autorité de Santé sur l'isolement contention pour leur prochaine recommandation de bonne pratique qui doit sortir au mois de mars. On a envoyé un texte d'observation rédigé à trois mains. Enfin, c'est moi qui l'ai rédigé, mais en fait, on a été trois à travailler dessus, qui est sur notre site internet. Et pour l'essentiel, nous préconisons que notre thèse de base, c'est que la contention des patients en psychiatrie doit être interdite. Notre thèse de base, c'est cela. Bon.
Oui.
Quant à l'isolement, nous préconisons que de pareilles décisions prêtent plus au-delà de quelques heures à une notification de la mesure, de la décision prise de mise à l'isolement, avec ouverture des droits, voies et délais de recours. Compte tenu de la diffusion généralisée dans pratiquement tous les établissements de l'isolement et de la contention, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, depuis la période sarkozyste, qui s'est ouverte en fait en 2015, alors nous pensons que ce que nous préconisons pour l'isolement doit être généralisé pour l'isolement contention, à savoir que les décisions d'isolement contention doivent prêter lieu à une notification de ces décisions, sous la forme d'une décision écrite et motivée, avec notification à l'intéressé de ses droits et voies et de ses droits et délais de recours. Bien. Alors, nous avons préconisé qu'également, si de pareilles décisions doivent durer plus de 5 jours, cela prête lieu à une judiciarisation et que le maintien au-delà de 5 jours d'une mesure d'isolement contention ne puisse avoir cours que si elle est autorisée par un juge des libertés de la détention. Par ailleurs, nous avons préconisé que la HAS tourne une de ses recommandations. Parmi ses recommandations, qu'elle dise bien, qu'elle préconise que la décision d'isolement contention prête lieu à une formalisation écrite qui est notifiée à l'intéressé avec information de la mesure à la personne de confiance que l'intéressé a désignée et remise à l'intéressé d'une notification de droit. Alors, on a quelque chance d'être, non pas peut-être d'être suivi, mais quelque chance que nos observations prêtent lieu à un débat nourri, parce que c'est de vraies questions que nous soulevons, étant donné que le nouvel article 32.22.5.1 sur la traçabilité de l'isolement contention, introduit par amendement du député Robillard dans la loi du 26 janvier 2016, a bien indiqué qu'il s'agit d'une décision d'un psychiatre et non d'une prescription. Or, le mot « décision » a des implications en droit. Une décision en droit qui est privative de liberté pour un intéressé prête-lui à une notification, prête-lui à une motivation et prête-lui à l'ouverture de voies et délais de recours.
D'accord. Yael Friedman ?
Alors là-dessus, par rapport à l'isolement contention, en fait, on se rend compte, en fait, c'est comme la loi du 5 juillet 2011, modifiée en 2013, la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a commencé à formaliser les pratiques de contention et d'isolement. Et il y a encore une fois, un hiatus entre les pratiques et puis la loi. Donc il faut continuer à pousser dans ce sens-là. Moi, j'ai été en juin 2016, donc la loi avait déjà été mise en application. J'ai été visiter un jeune homme de 24 ans qui avait été interné à la demande d'un tiers pour la première fois à l'hôpital Sainte-Anne, dans le service Vacheron, de Madame Marie-Noël Vacheron. Et donc j'ai pu constater en discutant avec au moins 6 patients hospitalisés là-bas que tout le monde, chaque personne qui arrive dans ce service est placée en isolement et contention.
Au moins 5 jours.
De 5 jours à 3 semaines, ça dépendait des cas de figure.
Enfin, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Vous êtes admis en soins sans consentement, vous pouvez faire une décompensation XY, peut-être pas grave. Immédiatement, on vous met en isolement et on vous attache aux 4 membres. Et vous restez comme ça, et vous êtes dépendant. Vous avez juste éventuellement un bassin pour faire vos besoins. Enfin bref, vous êtes ligoté comme un animal.
Hein. Oui.
Et puis aussi lourdement médiqué.
Et lourdement médiqué qui plus.
En plus.
Oui, parce qu'on parle de la contention physique, mais l'importance de la contention chimique n'est pas soulevée, par exemple, par le collectif des 39.
Ben non, et pour cause, les adeptes de la psychothérapie institutionnelle, quand vous allez dans leur lieu d'hospitalisation, sauf des cas bien précis où le médecin-chef s'efforce de faire un travail très dense, les patients sont médiqués. Donc, moi, je vois pas bien. D'ailleurs, c'est un des points de distance entre nous et le collectif des 39. Il faut savoir que si nous avons côtoyé le collectif des 39, nous n'avons jamais étaient pleinement en accord avec leur thèse. Alors, les collectifs des 39 mobilisent des soignants en quantité, ce sont des écoles de psychiatrie, des écoles de psychanalyse, des écoles de psychanalyse très précises, d'ailleurs des Lacaniens, ce sont des courants très précis, ils ont des raccords politiques et médiatiques assez conséquents, notamment voir Éric Favreau de Libération, sur lequel je ne m'étendrai pas, qui est quelqu'un de très problématique, hein, disons. Ils peuvent réunir des foules, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes critiques sur le fait que, premièrement, le collectif des 39 a tout d'abord rejeté toute judiciarisation de façon très virulente, hein, dans les premiers temps, et par ailleurs sur le fait qu'ils entendent les mouvements d'usagers comme devant être subordonnés à leur thèse.
Oui. Et moi, enfin, ce que je pensais aussi, c'est que le neuroleptique est simplement le principal outil de travail de la psychiatrie.
Bon, alors, en principe, là, ça se discute, si vous voulez. Quand on est en face d'une personne qui est en situation de crise, bien, que l'on médique dans un premier temps, moi, ça, je l'admets, c'est pas un problème. Mais, à mon sens, dès que la personne est en état de discuter, il faut discuter.
Ouais, c'est ça.
À mon sens.
Eh bien, André Bitton, Yael Friedman, je vous remercie d'être passé à notre émission. C'était un plaisir de vous recevoir.
Merci à vous.
Et nous vous disons donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, L'Entonnoir.